Vous écoutez, on lit pour vous.
Aide médicale à mourir. Pourquoi le Québec est-il champion? Un dossier d'Ariane Lacourcière et Marie-Ève Cousineau, paru le 5 avril 2026 dans la presse. Mon père ne voulait pas être un poids pour sa famille. Sans remettre en question l'aide médicale à mourir, Nathalie Désiel estime que la société québécoise a des questions à se poser. Après une crise cardiaque à 50 ans, le père de Nathalie Désiel a vécu une vie normale jusqu'à 75 ans, avant que sa santé se détériore considérablement. Un médicament qu'il prenait pour soulager son cœur avait abîmé ses organes vitaux. Il devait être hospitalisé tous les mois. Lors de sa dernière hospitalisation, il apprend qu'il est atteint d'insuffisance rénale et qu'il devra recevoir des traitements de dialyse. Il ne voulait pas retourner à la maison dans ces conditions-là. Mon père le nommait clairement, il ne voulait pas être un poids pour sa famille car il savait qu'il n'aurait pas suffisamment de soins à domicile, il voulait partir dignement, il a demandé l'aide médicale à mourir, raconte sa fille Nathalie Désiel. Elle ne remet pas en cause le choix de son père, décédé en 2022, ni la pertinence de la loi concernant les soins de fin de vie qui autorise le recours à l'aide médicale à mourir, AMM, au Québec. Après tout, sondage après sondage, plus de 85% de la population se dit favorable à ce soin qui émane d'un mécanisme transpartisan souvent cité comme une grande réussite du gouvernement québécois. Mais en sachant qu'il n'aurait pas été un poids pour sa femme et sa fille et que les soins palliatifs auraient été plus efficaces, mon père aurait peut-être étiré pour partir doucement, affirme Mme Désiel, qui est présidente du regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal. Alors que la loi concernant les soins de fin de vie a célébré ses 10 ans en décembre, la presse a interrogé 22 médecins, éthiciens et intervenants de la santé, dont 14 administrent eux-mêmes l'AMM. Plusieurs éprouvent un malaise devant la tangente que prend la pratique de l'AMM au Québec. D'autres, dont le président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité, le docteur Laurent Boisvert, sont d'un avis contraire. Ça n'existe pas. Des dérives avec l'AMM. Des données en hausse. Le nombre de patients qui ont recours à l'aide médicale à mourir augmente sans cesse dans la province. En 2025, ils ont été 6268 à recevoir ce soin, ce qui représente 7,9% des décès recensés en 2025. En France, le Québec a été cité comme un contre-exemple dans les débats parlementaires sur le sujet en mars 2026. L'AMM au Québec en chiffres. Source, rapport annuel 2024-2025 de la Commission sur les soins de fin de vie. Âge moyen du patient, 76 ans. Diagnostic le plus fréquent, cancer, 58% des cas. Pronostic d'un an ou moins, 82%. Pronostic de plus d'un an ou pas considéré en fin de vie, 7%. Pour le docteur Boisvert, ce chiffre n'est ni bon ni mauvais, mais clairement ça nous distingue, dit-il. Il faut se questionner comme société sur pourquoi on est les champions du monde de ça, affirme quant à elle Mme Désiel. Des patients veulent-ils y avoir recours par dépit parce qu'ils n'ont pas accès à des services à domicile ou qu'ils ne veulent pas aller en CHSLD? Comme soignante, je serais beaucoup plus à l'aise si on avait d'excellents soins palliatifs au Québec, d'excellents CHSLD, d'excellents soins pour nos personnes les plus vulnérables et que l'aide médicale à mourir était un dernier recours, affirme la docteure Marie-Hélène Marchand, une médecin montréalaise en soins palliatifs qui pratique l'AMM. Mon problème, c'est que le système de santé ne va pas super bien, témoigne la docteure A, une médecin en soins palliatifs de Montréal qui administre des AMM et qui a demandé l'anonymat pour pouvoir s'exprimer librement. Si davantage de services étaient offerts aux patients, peut-être ne demanderaient-ils pas l'AMM, avance-t-elle. C'est là qu'on entre peut-être dans le glissement. Si on ne prend pas soin de nos aînés, de nos gens avec des handicaps, il faut qu'ils aient accès à des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des psychologues. Actuellement, on a des manques dans tout, dit-elle. traitement médiatique. L'humoriste Pierre Légaré est décédé par aide médicale à mourir en octobre 2021. Dans une pièce de théâtre, sa fille, la réalisatrice Manuelle Légaré, veut ouvrir une conversation sur l'aide médicale à mourir et sur ceux qui restent. Avons-nous encore des remparts contre les dérives ? Je pense que non, dit-elle. La hausse des cas d'AMM interpelle aussi le gouvernement. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a accordé en 2024 plus de 900 000 dollars à un consortium de 75 chercheurs, cliniciens et collaborateurs afin de mieux comprendre le recours à l'AMM en contexte québécois. L'équipe doit rendre ses conclusions en 2027. Mais des résultats préliminaires révèlent, entre autres, que le traitement médiatique de l'AMM est plus favorable au Québec qu'ailleurs au Canada. Des histoires inspirantes et positives du recours à l'AMM sont fréquemment publiées ou diffusées, précise l'une des trois directrices du consortium, Laetitienne Marie-Ève Boutillier, rattachée à l'Université de Montréal. Selon les chercheurs, rien ne permet pour le moment d'établir un lien entre le manque d'accès aux soins au Québec et l'augmentation des demandes d'AMM. Pas de statistiques sur les soins palliatifs. Quand la loi concernant les soins de fin de vie est entrée en vigueur en décembre 2015, il était prévu que l'AMM, de même que les soins palliatifs, fasse l'objet d'une surveillance par la Commission sur les soins de fin de vie, CSFV. 10 ans après l'entrée en vigueur de la loi, il n'y a aucun portrait juste de l'offre de soins palliatifs dans la province. Les données qu'on reçoit des établissements ne sont pas fiables, constate la docteure Lucie Poitras, présidente de la CSFV. Président sortant de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité, le docteur Georges L'Espérance affirme qu'environ 80% des gens qui ont reçu l'aide médicale à mourir au Québec ont reçu des soins palliatifs. Vous écoutez « Pourquoi le Québec est-il champion ?» un dossier d'Ariane Lacourcière et Marie-Ève Cousineau paru le 5 avril 2026 dans la presse. Aucun patient ne demande l'AMM parce qu'il n'a pas de soins palliatifs, assure le docteur L'Espérance. Mais on pense qu'il y a encore énormément à faire de ce côté-là, ajoute la docteure Lucie Poitras. Membre du comité conseil du ministère de la Santé et des Services sociaux sur l'AMM, le docteur Guy Morissette affirme que le manque d'accès aux soins palliatifs n'est clairement pas la motivation principale des gens qui demandent l'AMM. Les gens veulent contrôler les circonstances qui entourent leur fin de vie, dit le médecin qui administre des AMM en Outaouais. Une zone grise. Pour obtenir l'aide médicale à mourir au Québec, un patient doit respecter certains critères. Il doit notamment être atteint d'une maladie grave et incurable, avoir une situation médicale qui se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités et éprouver des souffrances physiques ou psychiques persistantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées. Des modifications ont été apportées à la loi au fil des ans. Depuis 2023, un patient n'a plus besoin d'être en fin de vie pour obtenir l'AMM. Les demandes anticipées sont aussi possibles depuis le 30 octobre 2024. Le docteur Karl Bromwich éprouve un malaise depuis l'abolition du critère de fin de vie. Certains patients dont la mort naturelle n'est pas raisonnablement prévisible se trouvent dans une zone grise, selon ce médecin en soins palliatifs en Estrie qui administre l'AMM depuis 2016. Je vois un écart entre mon interprétation de la loi, qui est quand même floue à mon avis, et celle de certains collègues, dit le spécialiste en médecine interne. Il se sent mal à l'aise d'évaluer ses patients vu son application plus rigide des critères. Dire non, c'est pas évident, affirme-t-il. Parmi les cas en zone grise, les patients très âgés qui ont plusieurs maladies, dont le corps est épuisé et qui attendent la mort, évoque-t-il. Il y a une souffrance derrière la demande d'AMM, mais formellement parlant, la vieillesse et la fragilité ne sont pas considérées comme une maladie grave et irréversible. Maître Pierre Deschamps, qui siège sur la CSFV depuis le début, affirme que des critères qui étaient rigoureux au départ deviennent de plus en plus élastiques. Même si tout respecte la loi, il y a des questionnements éthiques à avoir, dit-il. Le docteur Boisvert estime que ce que certains perçoivent comme un glissement découle tout simplement d'élargissements apportés à la loi elle-même. Il reconnaît qu'il y a matière à interprétation en ce qui concerne les critères de l'AMM. D'où le malaise, dit-il. Environ 4% des cas sont plus complexes, selon lui. Tous les praticiens ne sont pas à l'aise avec les cas plus atypiques, dit-il. Mise en garde. En 10 ans, le docteur Claude Rivard a reçu des centaines de demandes d'AMM en Montérégie. Dans un peu plus de 20% des cas, l'aide médicale n'a pas été administrée. La personne est morte avant, n'était pas apte à consentir ou ne respectait pas certains critères. Quelqu'un qui va encore travailler, qui déneige son entrée et qui accroche ses guirlandes de Noël, je m'excuse, mais il n'est pas en déclin avancé et irrémédiable comme une personne mourante ou très souffrante en fauteuil roulant, qui ne marche plus, qui est alité et qui n'est même plus capable de se laver ou de s'habiller, dit le docteur Rivard. Ces gens ont des douleurs, dit-il. Ils voient ça comme une option facile où ils n'ont pas eux-mêmes à se tuer. Quand il reçoit ce genre de demande, le docteur Rivard conseille aux patients de revoir les ressources, les aidant à gérer leurs douleurs. D'autres patients atteints de cancer, par exemple, demandent in extremis l'AMM. Ils pensent vraiment que c'est un soin qu'on peut avoir comme quand on va chez McDonald's. Tu le demandes, tu l'as la journée même. C'est pas ça. Ça prend du temps. Faire une évaluation pour l'AMM, insiste le docteur Claude Rivard. Deux médecins doivent donner leur autorisation pour une AMM avant qu'elle ne soit administrée. Des médecins interrogés par la presse disent d'ailleurs ressentir une certaine pression à confirmer le diagnostic d'un collègue. On a parfois l'impression que le deuxième avis est une formalité, dit la docteure B, une médecin en soins palliatifs qui procède parfois à des AMM. L'anesthésiologiste Caroline Ouellette, présidente de l'organisme aux Trois Sentiers qui offre des soins palliatifs intensifs à domicile à Montréal et pratique l'AMM, rappelle que 90% des Québécois ne décèdent pas par ce soin. Elle déplore qu'on associe trop souvent mort digne à l'AMM. On a démonisé l'agonie, alors que ça peut être beau, dit-elle. Le docteur Boisvert reconnaît qu'il y a au Québec une association entre dignité et AMM. Il relève que l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité veut dorénavant consacrer ses efforts aux autres modalités de fin de vie, entre autres les directives médicales anticipées et les soins palliatifs. « Il a fallu prendre la défense de l'AMM, dit-il, mais je pense que maintenant, c'est chose acquise. » Une fin de vie sereine. Assis sur son lit d'hôpital, Daniel Larivière cherche son souffle. Il aspire un filet d'air comme s'il respirait à travers une paille. Ses jours sont comptés. Dans moins de 48 heures, l'homme de 71 ans qui souffre de la maladie pulmonaire obstructive chronique recevra l'aide médicale à mourir, AMM. « Je suis serein, » dit M. Larivière, ses beaux yeux pères tirant sur le bleu avec la lumière du jour qui pénètre dans sa chambre du pavillon de soins palliatifs et de fin de vie, situé à proximité du centre hospitalier de La Naudière. Il y a 3 mois encore, M. Larivière travaillait dans une quincaillerie, la même depuis 30 ans. Mais depuis février 2026, il multiplie les trajets en ambulance et les séjours de l'hôpital. Selon son médecin, sa capacité respiratoire est d'environ 20%. Lui, si indépendant, a besoin d'aide pour tout. Un rien l'épuise, même la préparation du petit-déjeuner. S'il y avait eu la moindre chance d'amélioration, de retourner sur le marché du travail pour avoir du fun avec les copains, de sortir de la maison et voir du monde, j'aurais continué, dit M. Larivière, qui a cessé de fumer en février 2026. Comme il n'y a plus de chance que ça s'améliore, je me suis dit, ça ne vaut pas la peine d'étirer l'élastique. René, la conjointe de Daniel Larivière depuis 40 ans, est malade. Vaut mieux arrêter, dit M. Larivière, qui pèse à peine 112 livres. Avant que mon épouse soit complètement à terre, psychologiquement et physiquement. Une expertise dans La Naudière. M. Larivière l'ignorait, mais sa région La Naudière est celle où le taux de décès par AMM est le plus élevé, 13,4% au Québec. Loin devant Montréal, 4,7%, qui présente la proportion la plus basse pour 2024-2025. Vous écoutez « Pourquoi le Québec est-il champion ?» un dossier d'Ariane Lacourcière et Marie-Ève Cousineau paru le 5 avril 2026 dans la presse. Proportion des décès par aide médicale à mourir selon la région. Source, rapport annuel 2024-2025 de la Commission sur les soins de fin de vie. Lanaudière, 13,4%. Bas-Saint-Laurent, 10,6%. Capitale-Nationale, 10,4%. Montérégie, 9,5%. Estrie, 9,3%. Nord du Québec, 9,3%. Abitibi-Témiscamingue, 8,8%. Chaudière-Appalaches, 8,5%. Laurentides, 7,5%. Outaouais, 6,5%. Côte-Nord, 6,6%. Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, 6,5%. Laval, 6,5%. Saguenay-Lac-Saint-Jean, 6,4%. Mauricie et Centre du Québec, 5,4%. Montréal, 4,7%. Moyenne provinciale, 7,9%. Le chef de service de l'AMM dans la Naudière, le docteur Louis Daigle, émet deux hypothèses pour expliquer le phénomène. Sa région est moins diversifiée culturellement que la métropole montréalaise. Les gens issus de communautés asiatiques, africaines et italiennes, par exemple, ne demandent pas l'AMM, affirme le médecin de famille qui a travaillé à Laval. Ce n'est pas dans leur valeur, dans leur culture de faire ça, dit-il. Autre raison, selon lui, l'accessibilité à l'AMM dans la Naudière est A1. Les patients qui la demandent sont rapidement pris en charge, précise-t-il. Dans son équipe, les médecins administrent chacun plus de 50 AMM par année. On a développé une certaine expertise qui est assez manifeste, dit le docteur Daigle. Une dernière danse. Un consortium de recherche regroupant 75 experts et financé par Québec tente de comprendre pourquoi l'AMM est davantage administrée dans certaines régions. L'équipe se penche notamment sur la centralisation et la coordination des services d'AMM qui pourraient ou pas en faciliter l'accès. Quant aux Québécois types qui demandent l'AMM, les chercheurs constatent jusqu'à présent qu'il est caucasien, non religieux, instruit, a un statut socio-économique élevé et veut être maître de sa vie. Daniel Larivière, lui, a commencé à songer à l'aide médicale à mourir lorsque son état de santé a dégénéré en février. Il avait entendu parler de l'AMM aux nouvelles et par un collègue dont un proche l'avait reçu. Il a questionné le personnel des urgences qui a enclenché le processus. Sa course s'est terminée samedi. Mais avant, il aura étreint sa douce, Renée, et dansé avec elle une dernière fois sur la chanson « Le Métèque » de Georges Moustaki. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Des médecins super prestataires d'aide médicale à mourir. En 2025, un peu plus de 1100 médecins ont pratiqué l'aide médicale à mourir, l'AMM, au Québec. Ils se sont occupés chacun de 5 cas en moyenne durant l'année. Mais une poignée de médecins, dont plusieurs sont en fin de pratique, ont fait de ce soin leur spécialité. Selon des données de la Régie de l'assurance maladie du Québec, la RAMQ, 20 médecins ont pratiqué 21% des AMM en 2025. Les plus grands prestataires de ce soin sont un médecin spécialiste et un médecin de famille qui se sont occupés chacun de 117 cas durant l'année. 1114, nombre de médecins ayant pratiqué l'AMM en 2025 au Québec. 5,3, nombre moyen de cas par médecin. Source, Régie de l'assurance maladie du Québec. Le docteur Claude Rivard, qui exerce en Montérégie, se qualifie lui-même de super prestataire d'AMM. Le médecin semi-retraité de 66 ans, qui ne fait plus de cabinet depuis janvier, procède à 3 ou 4 évaluations d'aide médicale à mourir par semaine. Pour lui, le fait que le Québec soit champion du monde de ce soin n'est pas un problème. Pantoute, ce n'est pas surprenant du tout, dit le docteur Rivard, qui offre aussi des soins palliatifs à domicile. Selon lui, il y a une grosse différence culturelle entre le Québec et le Canada, ce qui expliquerait pourquoi l'AMM est plus populaire ici. Et comme les mentalités changent et que la population vieillit, ce soin sera encore plus demandé dans l'avenir, croit-il. On n'arrive pas à satisfaire à la demande. En 3 mois, en 2026, j'ai fait ce que j'avais fait en 6 mois, en 2025. Relation avec la mort. Au Collège des médecins du Québec, on estime que les médecins qui pratiquent plusieurs AMM dans une année ont développé une expertise qui n'est pas négligeable. Selon la chercheuse Marie-Ève Boutillier, ces prestataires à haut volume amènent une certaine fluidité dans l'accessibilité de l'AMM. Ce n'est pas eux qui causent la demande, dit-elle. Le docteur Laurent Boisvert, qui a passé sa carrière de médecin de famille dans des salles d'urgence, est aussi un grand prestataire d'AMM au Québec. Il parle d'une pratique exigeante sur le plan des émotions et du temps. L'AMM est souvent administrée le soir et la fin de semaine. Il est donc plus facile pour un médecin en fin de carrière d'avoir du temps à consacrer à cette pratique. Même son de cloche du côté du docteur Georges L'Espérance, président sortant de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. La vaste majorité des médecins ne sont pas à l'aise avec la mort. Nous, on la côtoie. On est plus à l'aise. Les cas problèmes. Chaque cas d'AMM est révisé par la Commission sur les soins de fin de vie, CSFV, au Québec. L'an dernier, 20 cas ont été jugés problématiques. Ce cas est très marginal, précise la CSFV. Pour 10 de ces cas problématiques, la personne n'était pas atteinte d'une maladie grave et incurable. Dans 3 cas, la vie d'un deuxième professionnel de la santé n'a pas été obtenue avant d'administrer l'AMM. Dans 2 cas, la demande d'AMM a été contresignée par une personne qui n'était pas un professionnel de la santé, peut-on lire dans le rapport annuel de la CSFV. La presse a tenté d'obtenir de la CSFV, par une demande d'accès à l'information, les rapports anonymisés sur ces décès. La CSFV a refusé notre demande, disant que ces rapports sont formés en substance de renseignements confidentiels. Chaque cas problématique doit être adressé aux ordres professionnels des praticiens impliqués dans l'AMM. Depuis 10 ans, aucune infirmière n'a été blâmée pour sa pratique relativement à ce soin. Un médecin de l'Outaouais, le docteur Peter Paul Talco, a été radié pour 4 mois en mars pour avoir omis d'informer la CSFV de 3 cas de patients décédés par AMM. 2 médecins se sont aussi engagés de façon volontaire à cesser l'exercice des soins de fin de vie, notamment l'AMM, indique la porte-parole du Collège des médecins du Québec, Leslie Labranche. Certains rappels ont aussi été faits auprès de médecins, entre autres concernant l'évaluation de l'aptitude à consentir et la tenue de dossiers en lien avec l'élaboration avec attention de maladies graves et incurables. Mais non, ça n'existe pas, des dérives. Pour dire ça, qu'on m'arrive avec des données, et alors on en discutera. Martel, le docteur Boisvert. C'était « Pourquoi le Québec est-il champion ?» un dossier d'Ariane Lacourcière et Marie-Ève Cousineau, paru le 5 avril 2026 dans la presse.
L'eau froide est-elle plus dense? Un texte de Mathieu Perrault, paru le 12 avril 2026 dans la presse. Un lecteur, Andrew Hammond, a posé cette question. Est-ce qu'une vague d'eau froide qui frappe un nageur est plus compacte et plus dure qu'une vague plus chaude? Oui, mais bien peu de gens peuvent remarquer la différence, selon François Hamann, spécialiste de la réaction du corps au froid à l'Université d'Ottawa. L'eau devient plus dense quand elle se refroidit, jusqu'à 4 degrés Celsius, dit M. Hamann. Ensuite, sa densité diminue quand elle passe de liquide à glace. Mais c'est extrêmement difficile de sentir la différence de densité. Il faut une personne extrêmement consciente de son corps et de ses sensations. Bonne nouvelle, c'est exactement ce qu'il faut avoir pour résister au froid, selon le biologiste d'Ottawa. Ça fait 25 ans que j'étudie la réponse biologique au froid, dit M. Hamann. Depuis la guerre en Ukraine en 2014, il y a un renouveau d'intérêt dans l'OTAN pour la médecine et la physiologie en Arctique. Avec les soldats, je discute beaucoup de la tendance humaine à déconnecter son cerveau et son corps dans les conditions extrêmes. On essaie de ne pas ressentir la douleur. Mais la bonne façon de faire face au froid, c'est de continuer à avoir une conscience de soi, de son corps. Un enfant qui se plaint d'avoir les pieds ou les mains froides se fait souvent dire d'endurer son sort, souligne M. Hamann. Mais en faisant ça, on déconnecte l'enfant de ses sensations thermiques. Donc, un nageur qui est capable de ressentir une différence de densité de l'eau plus froide est probablement en contact avec son corps, ce qui est la première étape pour pouvoir affronter le froid. Bain de glace. Une autre étape importante de la préparation au froid est d'apprendre à inspirer et expirer calmement dans l'eau froide. Si on tombe dans l'eau froide, le réflexe, c'est de prendre une grande inspiration, dit M. Hamann. Il faut apprendre à se calmer. L'étude biologique de la réponse au froid mène à un constat brutal. L'une des méthodes de santé holistique les plus populaires sur les réseaux sociaux, les bains de glace, fait plus de tort que de bien si on en abuse. Un bain de glace de plus de 2 minutes peut causer des dommages aux nerfs des extrémités, selon M. Hamann. Durant la Première Guerre mondiale, dans les tranchées, on avait des soldats qui avaient un pied de tranchée, dit M. Hamann. Ils avaient des douleurs constantes à cause de neuropathies aux pieds parce qu'ils passaient leur journée dans des bottes mouillées par temps très froid. Le pied de tranchée, c'est très sournois comme blessure, et ça peut survenir aux mains aussi. Lui-même met toujours des bottes et des gants de néoprène de 5 mm quand il va dans l'eau glacée. La discussion sur les bains de glace est compliquée par des imprécisions. Par exemple, une étude de l'Université d'Ottawa qui constatait des effets bénéfiques à des bains quotidiens d'une heure dans une eau froide à 14 degrés Celsius était illustrée dans le communiqué de presse par une image d'un homme qui se baigne dans un lac recouvert de neige. L'eau dans un tel lac serait plus proche de zéro, pas de 14 degrés. Les Finlandais ne se jettent-ils pas dans la neige ou dans l'eau froide entre 2 séances de sauna? En Finlande, on se sert du froid pour amplifier la réaction du corps au sauna chaud, répond M. Hamann, pas comme un but en soi. La chaleur du sauna améliore la circulation sanguine et diminue le risque cardiovasculaire. C'est une bonne façon de se préparer au froid, dit M. Hamann. Une réaction du corps humain peut par ailleurs altérer notre contact avec l'eau. Quand on passe beaucoup de temps dans l'eau froide, on perd beaucoup de chaleur. Les nerfs des extrémités se refroidissent et on a un phénomène qu'on appelle « main de crabe ». On perd de l'efficacité à nager parce que la main est moins souple. C'était « L'eau froide est-elle plus dense ?» un texte de Mathieu Perrault, paru le 12 avril 2026 dans la presse.